Bonjour, bonjour, Yves au micro pour une nouvelle émission de 24 Renault secondes qui ne va pas déroger à la tradition en vous rappelant ou en vous apprenant le tout aussi rapidement que possible que 24 Renault secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent quelque part depuis la fin du 19e siècle. C'était quelque part rue Scribe à Paris. Bon, avant un peu pour les puristes, mais la première projection publique, décembre 1895, dois-je vous le rappeler. Ce jour de 24 notes secondes, eh bien, ce n'est pas sans appréhension qu'on s'apprête à évoquer la carrière d'un des plus grand réalisateur du cinéma mondial, avec la modestie qui s'impose, et surtout plus de musique que de paroles, le dénommé Luchino Visconti di Modrone, né à Milan le 2 novembre 1906 et mort à Rome le 17 mars 1976. Une vie hélas brève pour celui qui fut certes réalisateur de cinéma, mais aussi metteur en scène de théâtre, metteur en scène d'opéra et écrivain, bref, un homme polyphonique qui était, comme son nom l'indique, eh bien, le descendant d'une famille italienne noble, puisque Luchino est le quatrième de 7 enfants, le fait qu'il est juste au milieu, si vous calculez bien, de 7 enfants d'une prestigieuse famille de l'aristocratie italienne. Bien évidemment, cette ascendance pèsera sur son œuvre, sa vie, sa pensée, etc. Puisque fervent communiste, eh bien, Luchino Visconti s'efforcera de concilier ses idées politiques progressistes avec un milieu familial dont le moins qu'on puisse dire est qu'il était à la fois aisé et conservateur. L'homme commence non pas du tout par les arts, puisque pendant 5 ans, il s'occupera d'une écurie de chevaux. Il était passionné par les chevaux comme... Là encore, c'est parfois une habitude aristocratique. Alors, on va être très rapide sur le début de sa carrière, parce que sinon, on n'écoutera pas de musique et on ne pourra pas passer. On ne pourra pas parler d'autres films. Disons que Luchino Visconti a commencé comme assistant réalisateur de rien moins que Jean Renoir, juste avant la guerre, que son premier film, il le tourne pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça s'appelle en français « Les amants diaboliques », en italien « Ossessione ». C'est l'adaptation clandestine, l'adaptation d'un roman bien connu, « Le facteur sonne toujours deux fois », qui sera ensuite tourné, notamment une fameuse version avec Jack Nicholson et Jessica Lange. « Ossessione » est considéré comme un des premiers films du néo-réalisme, ce mouvement italien cinématographique né à la fin de la guerre et qui s'efforçait de sortir des studios pour restituer au plus près la vie réelle dans les conditions réelles de vraies personnes. Ce sera aussi le cas en 1948 de « La Terre tremble », un film qui se passe en Sicile, près de Catane, et qui est donc une reconstitution de la vie de pêcheur sicilien. Ensuite, on verra Bellissima, Senso, Les Nuits Blanches. Je m'excuse de ne pas pouvoir les évoquer plus avant, mais ça nous permet d'en dire plus et surtout d'écouter un extrait musical de la bande originale de Rocco et ses frères, un film que Luchino Visconti, tourne en 1960, à une époque où vont bon train les collaborations franco-italiennes, c'est-à-dire que on prend un réalisateur italien, un compositeur italien, en l'espèce Nino Rota lui-même, et puis dans la distribution, on mêle acteurs français et italiens. Pour le cinéma italien, ce n'est pas grave, puisque, petit détail technique, à l'époque, tous les films italiens étaient post-synchronisés, c'est-à-dire qu'on ne récupérait pas le son, les dialogues en direct sur les tournages, mais on les réenregistrait après le tournage, ce qui fait que pendant le tournage, eh bien, les Français parlaient en français, les Italiens en italien, et qu'ensuite, on s'arrangeait en studio, et du coup, eh bien, la distribution de Rocco et ses frères, elle mêle Alain Delon, Annie Girardot et même Roger Hanin, avec Renato Salvatori, Claudia Cardinale et Paolo Stoppa, que vous ne connaissez pas, mais qui était un grand acteur des années 60. Voilà, j'en dirai un tout petit peu plus après, mais on va écouter évidemment un extrait de cette bande originale, Rocco e sui fratelli, Rocco et ses frères, 1960, Nino Rota, Luchino Visconti, dans 24 notes secondes. Thank you. Extrait bien nostalgique de la musique composée par Nino Rota pour Rocco et ses frères. Une fresque de plus de 3 heures tournée par Luquino Visconti. L'histoire d'une famille, la famille Parandi, la mère veuve et ses 5 fils qui quittent l'Italie du Sud pour rejoindre la ville de Milan en espérant une vie meilleure. Alors le résultat sera plutôt contrasté, à vrai dire plutôt dramatique, puisque dans une thématique presque universelle, eh bien, les garçons de la campagne rencontreront une mauvaise fille de la ville. En l'espèce, eh bien, la mauvaise fille, c'est Nadia, incarnée par Annie Girardot. Et les garçons de la campagne, eh bien, ce sont essentiellement, puisqu'il y a 5 fils, Alain Delon et Renato Salvatori dans les rôles principaux. Alors on aurait pu croire que justement cette alliance d'acteurs français et italiens soit un peu artificielle, alors que le film, même s'il en est assez loin, se réclame quand même du néo-réalisme. Eh bien, grâce à Luchino Visconti, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est vraiment une fresque poignante, inspirée a priori d'un recueil de nouvelles de Giovanni Testori, mais qui en fait est plus une sorte d'adaptation combinée des frères Karamazov de Dostoïevski et de Joseph et ses frères de Thomas Mann. Bref, nous sommes dans des sommets, bien à l'image de Luchino Visconti, un réalisateur d'un raffinement et d'une culture absolument immense, puisque comme je l'ai évoqué, on lui doit non seulement une petite douzaine de films, à vrai dire assez peu pour une carrière de réalisateur, mais des films longs et pour la plupart inoubliables. Et puis, c'est surtout qu'aux côtés de des réalisations de films, eh bien, Luchino Visconti aura multiplié les mises en scène théâtrales et d'opéra. Après Rocco et ses frères, on le verra tourner un épisode d'un film à sketch, qui est un genre très répandu dans les années 70, Bocas 70. Et puis surtout, en 1962, eh bien, il retrouvera Alain Delon et il retrouvera l'adaptation d'un roman pour un film qui mettra en vedette, là encore, des acteurs français, italiens, mais aussi américains, ce qui est plus étonnant, puisque, en l'espèce, le guépard, il gâteau pardo, verra dans les rôles principaux Burt Lancaster, eh oui, qui interprétait un aristocrate italien avec une maestria absolument époustouflante, et à ses côtés, une distribution internationale de grande qualité, Alain Delon, une fois de plus, magnifique dans le rôle de Tancrède, une sorte d'ange borgne, absolument charismatique et incandescent. Claudia Cardinale, Claudia, dans le rôle de son amoureuse, on va dire, et puis une distribution internationale pour un film qui se passe en 1860 en Sicile et qui raconte en fait la lutte de Garibaldi pour l'indépendance et je dirais la cohésion italienne, un film qui mêle tout à la fois la peinture de la fin d'un monde, celui de l'aristocratie italienne, sicilienne, de ces années de la fin du 19e siècle, avec à la fois une sorte de soulagement et de nostalgie dont Visconti, en tant que noble, était sans doute le mieux à même de la traduire à l'écran, et puis le grand souffle épique de l'histoire, un film qui avait coûté fort cher, mais le résultat fut à l'avenant, puisque le film obtint, comment aurait-il pu en être autrement, la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1963. J'ai oublié, et pourtant, de vous préciser qu'il était adapté d'un roman fameux signé par Giuseppe Tomasi de Lampedusa, lui aussi un aristocrate italien, et l'histoire veut que, en fait, ce roman parut après sa mort et que donc il ne put guère profiter de l'immense succès que, dès sa parution, il suscita. Bref, là encore, nous sommes dans les sommets et nous y restons avec la musique, puisqu'elle était à nouveau signée de Nino Rota. Voilà, bien loin de ses compositions pour Fellini, un extrait de la lyrique et splendide partition de Nino Rota pour Le Guépard, un des grands films de 1963, la Palme d'Or au Festival de Cannes, mais aussi un grand succès public pour un film fort coûteux qui culmine, alors il fait là encore près de 2h30, qui culmine dans une scène de bal qui clôt le film, une scène qui dure presque une demi-heure. Alors, des gens qui dansent pendant une demi-heure, vous allez me dire, et en fait, pas du tout, puisque dans cette scène, Luchino Visconti concentre à la fois son art du montage, de la mise en scène et de la direction d'acteur, et puis une méditation sur l'histoire et son passage, puisque ce bal marque tout à la fois la fin de l'aristocratie italienne incarnée par Burt Lancaster et le début de la monarchie constitutionnelle qui va suivre comme régime politique italien, avec Alain Delon et Claudia Cardinale comme couple charismatique incarnant en fait ce renouveau, un mélange de nostalgie et d'espoir, un mélange de tristesse et d'exaltation, bref, une scène absolument magistrale, un moment inoubliable de cinéma. Seul le cinéma peut nous apporter ce genre de choses. C'était, à la limite, une bonne définition de tout l'art de Luchino Visconti, qui poursuit ensuite, évidemment, sa carrière. On passera plus rapidement sur Sandra, tournée en 1964. Et pourtant, là encore, c'est une petite merveille. Un peu moins, peut-être, pour l'adaptation un peu curieuse en 1967 avec Marcello Mastroianni dans les rôles principaux de L'étranger d'Albert Camus. tentative, à mon avis pas forcément très réussie, peut-être que ce n'était pas vraiment un roman adaptable au cinéma. Et on va écouter un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1969, là encore un film de près de 2h30, là encore une fresque historique qui mêle le grand souffle de l'histoire et la petite histoire. Par contre, les personnages sont beaucoup moins charismatiques que ce n'était le cas pour Le Guépard, puisque le film se passe à partir de février 1933 dans la Roure, et qu'il voit la progressive ignominie gagner les rangs des industriels allemands qui composent très rapidement avec le nazisme, puis qui après le soutiennent activement avec les résultats que l'on sait. Le film mêle évidemment des épisodes historiques comme la nuit des longs couteaux avec des épisodes tout aussi sordides puisés dans l'histoire romancée. Dans les rôles principaux, là encore, c'est le charme des coproductions internationales. Il n'y a aucun Allemand, en fait. Ah si, il y a Helmut Grimm quand même. Mais à part ça, il y a Dirk Bogart. Il y a Helmut Berger, Charlotte Rampling. Mais en tout cas, la distribution, elle, mêle acteurs allemands et autres pour un film qui est évidemment uniquement allemand. Le film sera un très gros succès, peut-être... un peu en retrait par rapport au Guépard, et en tout cas l'occasion pour Visconti de faire montre de sa maîtrise du scénario, du montage et de toute la direction artistique. Et la musique, eh bien, elle est signée de Maurice Jarre. À l'époque, les méchantes langues dirent qu'on avait imposé Maurice Jarre à Visconti, qui aurait largement préféré des extraits de compositeurs romantiques allemands, ce qui paraissait justifié. Je vous laisse juge de ce qu'il en résultait dans 24 notes secondes. La musique de Maurice Jarre pour les damnés de Luchino Visconti. Bon, ben, c'est du Maurice Jarre, après on aime ou pas, mais c'est rarement très différent du précédent. Les damnés qui devaient constituer le premier volet d'une tétralogie allemande. On sait la fascination des Italiens pour les Allemands, qui n'a d'égal que la fascination des Allemands pour l'Italie. De cette tétralogie, eh bien, Visconti ne tournera en fait que 3 épisodes. Le premier est donc la Caduta degli Dei, les damnés. Le second, qui a déjà été beaucoup évoqué dans cette émission. On a écouté abondamment la musique de Mahler, donc malgré sa célébrité, on ne l'évoquera pas ici. Mort à Venise, Morte a Venezia, tourné en 1971 d'après un roman de Thomas Mann avec Dirk Bogart, absolument inoubliable, et ce cher Tadzio pour des images absolument magnifiques, mais un film très très connu. On va plutôt écouter un extrait de la bande originale du troisième et finalement dernier des 4 volets prévus de cette tétralogie. Un film tourné en 1972 qui mettait en vedette Helmut Berger et Romy Schneider dans les rôles principaux. Un film de près de 4 heures. carrément. Ludwig ou le crépuscule des dieux qui racontait la vie, effectivement, ô combien passionnante, de Louis II de Bavière, monté sur le trône à l'âge de 19 ans, mais qui s'intéresse peu aux affaires publiques et qui passera donc l'essentiel de sa brève existence à construire des châteaux bien connus et maintenant assaillis, je l'imagine, par des hordes de touristes chinois, tous plus extravagants les uns que les autres, châteaux dans lesquels Visconti obtint l'autorisation de tourner. Helmut Berger, qui présentait, paraît-il, une ressemblance assez saisissante avec Louis II de Bavière, eh bien, il ne s'en remit pas vraiment, puisque après, il fut toujours l'interprète de Visconti pour Ludwig ou le crépuscule des dieux. Aux côtés d'Helmut Berger et de Romy Schneider, pardonnez-moi, il y avait là encore une distribution très importante, Trevor Howard, Silvana Mangano, Gert Frobe, Helmut Grimm, là encore en mêlant acteurs de toutes espèces, si je puis dire, mais avec cette patte viscontinienne propre. Et là, cette fois-ci, Visconti obtint d'irriguer sa musique avec de la musique classique. On va écouter un extrait des Scènes d'enfants de Robert Schumann, opus 15-7, Traumri, dans 24 notes secondes. Les Scènes d'enfants de Robert Schumann pour un extrait de la bande originale de Ludwig ou le crépuscule des dieux. Alors un film qui de fait fut crépusculaire puisque pendant son tournage, Luchino Visconti fut victime d'un accident vasculaire cérébral et restera à moitié paralysé eh bien, jusqu'à la fin de ses jours, ce qui l'empêchera de tourner le quatrième volet qui aurait dû être une adaptation de La Montagne Magique, un des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale signé Thomas Mann. Après Ludwig, on vit en 1974 « Violence et passion » avec à nouveau Burt Lancaster et Helmut Berger et son dernier film tourné en 1976. Ça s'appelle L'Innocent, un film adapté de Gabriel D'Annunzio, dans lequel on voyait Giancarlo Giannini et Laura Antonelli dans les rôles principaux. Le film sorti le 17 mars 1976. Visconti nous avait quittés quelques mois auparavant, le 2 novembre 1975. Il déclarait à ses amis venus le voir dans un ultime adieu « Je n'ai pas peur de mourir, il vaut mieux aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est comme aller au cinéma ou à la foire. Arrivederci, Visconti. »